Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
T'es fière d'avoir une future épouse si belle, si jeune. Lorsqu'il s'approcha d'elle pour la saluer, il ne sut que dire « Je suis très heureux de vous revoir. Moi aussi. J'espère que vous allez bien. Oui, merci. Et vous, que vous ayez fait un bon voyage. Oui, merci, mais ça a été un peu long. J'ai hâte de me reposer dans ma chambre. J'espère que votre chambre vous conviendra. Vous savez, c'est la meilleure, le meilleur hôtel du pays. Oui, merci, elle est très belle. Je m'en suis aperçu en allant déposer mes bagages. Cette conversation de bienvenue paraissait un peu ridicule à tous les deux. Alba, en voyant sa cousine avec son fiancé, eut un petit pincement au corps. Cette jeune chose, avec cette chose toute raide, oh non alors, heureusement que je l'ai eue avant.
Thank you.
Le fiancé fut invité pour déjeuner. Le déjeuner fut long et monotone. Ils se sentaient mal à l'aise. Un étranger était entré chez eux. Cela faisait presque un mois qu'ils vivaient repliés sur eux-mêmes, avec leur histoire, leur drame, leur amour. Ils avaient oublié le monde, le mariage et tout. Et le fiancé avait l'impression de déranger et de jouer le trouble-fête. Odile n'avait Dieu que pour Alban, son fiancé donnait la nausée. Hippolyte ne pensait qu'à Charles-Alexandre, Charles-Alexandre à Agathe, qu'il ne pensait qu'à eux. Alban n'avait qu'un seul désir, partir, partir, aller loin, finir ce monde. Petit bourgeois, fuir tout ça pour courir après d'autres plaisirs. Oui, Odile, c'était fini pour lui. Pauvre Odile, elle sera abîmée, modelée par cette chose. Il en fera sa chose. Pauvre Odile, si jeune et déjà perdue, défigurée, boursouflée, elle deviendra mère, amère et sans illusion. Les années passeront, moroses, ternes. Il la tuera à petit feu, le feu des petits bourgeois. Le plaisir et l'amour sont nourris. Vont mourir pour elle. Ce ne sera plus que contrainte, obligation et habitude. Pauvre Odile, si jeune, si belle. Non, ce n'est pas possible. Il avait envie de crier. Il jeta violemment son couteau qui servait à couper la viande. Son bruit retentit dans la salle à manger et fit sursauter les gens. Excusez-moi. Odile le regardait et lui sourit. Elle avait compris. Après le repas, le fiancé fut reconduit à son hôtel. Il était sans famille et seul. Un témoin et quelques affaires l'accompagnaient à son mariage. Lorsqu'il fut parti,
Tous étaient soulagés. Ils ne savaient pourquoi ils avaient eu de la gêne et pensaient que cela provenait de côté un peu raide du fiancé. Il était un peu trop austère. Tous se tournèrent vers Odile pour savoir ce qu'elle pensait de cette rencontre. Odile, lorsque elle les vit venir vers elle, s'approcher d'elle, prit peur et puis quitta précipitamment la terrasse. Et il alla s'isoler dans sa chambre. On pensa que c'était l'émotion. Mais dans sa chambre, elle y resta des heures, allongée sur son lit, sans bouger, et surtout sans penser qu'allait-elle devenir maintenant. En fin de journée, elle se leva et alla dans le parc. Alban alla la rejoindre. Ils marchaient tous les deux, l'un à côté de l'autre. De temps en temps, elle le regardait avec un visage triste et pâle. Alban était ému. Il lui dit : Et vous, les dés sont jetés. Comment le trouvez-vous ? Demanda-t-elle. Tu seras un mari comme tant d'autres. Vous l'aimez? Je ne sais. Quelle vie allez-vous mener avec lui? Oh, une petite vie de province. Je serai madame la baronne Auguste de la Poicheté, femme d'officier, et voilà. Elle soupira. Partons, sauvons-nous avant le mariage. Il lui dit : Pour aller où ? Avec quoi ? Je n'ai pas d'argent. Si au moins vous pouviez, c'est vous que j'aime. Partons ensemble. Il lui dit : Je ne peux pas. Et le scandale que créerait votre départ. Tu m'as séduite, tu m'as prise, et maintenant tu m'abandonnes. Oh, mon Dieu, Alban ! Elle pleura. Je t'abandonne pas, je serai toujours avec toi. Tu pourras toujours compter sur moi. Tu ne pleures pas? J'ai pas à pleurer. Je vais me marier, j'ai un fiancé qui est comte et riche et porte un monocle. J'oubliais aussi, c'est que je me marie sans virginité. C'est ce que rêvent toutes les jeunes filles, non? Il lui dit, oui, c'est la vie. Elle lui dit, pourquoi c'est la vie? Dit-elle en écho. Alban lui donna son mouchoir pour qu'elle puisse éponger ses larmes. Une fois qu'elle eut fait, il lui prit la tête dans sa main et lui donna un baiser sur le front. Toujours, toujours, dit-il. Il la prit par la main, la ramena et l'amena vers le lac. Hippolyte, comme chaque matin, allait au lac. Il faisait encore beau, il n'avait pas envie de se presser. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il avait l'impression que son âme se purifiait. Il se sentait léger, aucune lourdeur du côté du corps, ni de mélancolie. Avec un désir, qu'un appel, qu'un plaisir, celui de s'approcher de la lumière du lac. Cette lumière qui grandissait au fur et à mesure qu'il approchait. Il arrivait sur les berges du lac. Tout semblait, comme à l'accoutumée, calme. Et puis, par le moindre bruit, par le moindre mouvement, il s'assit sur le rocher et se mit à contempler son reflet. Il se vit lumineux et pur. Les minutes passaient ainsi. Dans un grand vide, une grande douceur. Puis, tout d'un coup, un petit bruit dans l'eau. Tout bascula. Adieu. Il releva la tête et vit. Mon Dieu, pourquoi Charles allait descendre, sortir de l'eau, nu, beau, sorti de l'eau, sur l'autre rive, en face, où celle d'Hippolyte était Hippolyte. Il en avait le souffle coupé. Pendant quelques secondes, il restait comme paralysé. Charles Alexandre, qui ne le voyait pas, s'allongea sur l'herbe. Il était beau, comme un dieu. Il était beau. Hippolyte était terrifié par ce qu'il voyait. Il s'enfuit en courant. Adieu lac, adieu pureté. Tout finir. Tout était fini pour lui. La seule chose pure venait d'être souillé par le désir. Au bout d'un moment, il arrêta sa course. Qu'allait-il devenir maintenant? Adieu pureté, adieu douceur. Pourquoi son lac? Il n'y retournerait plus. Ah, si, justement, une fois, rien qu'une fois. Le jour du mariage arriva, on réveilla Odile dès 7 heures. Elle était pâle, très pâle. On pensait que c'était dû à l'émotion. Elle fit déjeuner dans sa chambre. Puis, une femme de chambre couturière vint la préparer. Elle se laissait faire comme une condamnée, que l'on prépare au supplice ou à la mort. Les autres membres de la famille se préparaient aussi. Alban, dans sa chambre, ne pensait qu'à une seule chose, fuir, rentrer à Paris, voir d'autres horizons. Hippolyte voyait la fin de tout. Qu'allait-il faire? Devenir, peut-être un dernier moment d'être près de Charles Alexandre, et après, quoi? Il ne pouvait avoir d'avenir, il n'était pas comme les autres, et peut-être même de ce monde, et puis sans Charles Alexandre. la cérémonie laïque avait eu lieu la veille. Et en même temps, on avait passé chez le notaire. La cérémonie religieuse se passait à 11h dans la petite église du village. Les villageois étaient assemblés sur la place de l'église. Tapis rouge, fleurs, chorale, enfants de chœur, six demoiselles d'honneur qui tenaient le voile. Odile était très belle. Elle ne regardait bien, rien. Ne savait pas ce qu'elle faisait, se laissait guider par les autres, et ne voyait rien. Son futur époux, en costume d'officier, une garde d'honneur, pour l'entrée et la sortie des églises. La cérémonie fut très longue. Il avait chaud. Et étaient étriqués, mal à l'aise dans leurs habits.
In saecula saeculorum. Amen. Iungo vobis in matrimonium.
Odile eut toutes les peines du monde à dire oui. Tous se tournèrent autour d'elle. Sa vue était trouble. Son époux, dut la soutenir durant la cérémonie.
Oremus, benedicat vos, Jesus Christus. Custodit vos Iesus Christus, illuminat vos Spiritus Sanctis, ostendat Dominus faciem suam vobis, et misereatur vestri, et conventat Dominus vultum sum super vos, et dat vobis faciem omnibus divus vitae vestri, impleratem von omni benedictum et celesti, in remissionem omnium peccatorum vestrum, un habitatis vitam aeternam, in saecula saeculorum.
Amen.
Enfin, c'était fini. Lorsqu'elle sortit de l'église, un petit vent frais la ranima un peu. Elle se sentit libre. Le cauchemar était fini. Tout allait entrer dans l'ordre comme avant. Mais non, pourquoi ? J'ai l'impression de devenir folle. Et puis en plus, il fallait sourire. Sourire. Lancer des dagers, des pièces d'argent. Des pièces d'argent. Sourire, sourire. Y aura-t-il toujours à son bras cette main? Après la cérémonie, il y eut un repas, 300 couverts. C'était long, long, interminable, cérémonieux, mais ne put rien avaler. Puis, en fin de journée, tout alla se changer pour le bal. Eudith se prépara dans sa chambre, la déshabilla et s'allongea un moment. Elle était en sueur, épuisée, la tête vide, tout tournait autour d'elle. Au pied de son lit se trouvait déjà Moll. La main Moll. Ses habits froissés et mous de la cérémonie. Elle avait aussi ses mâles. Elle n'avait demandé qu'une grâce au fiancé. C'était de quitter la maison familiale que le lendemain matin. Dû se lever. S'habiller pour le bal, ses préparatifs pour le bal, encore une cérémonie.
Cher ami, monsieur le lieutenant Nuno Lorena.
Pas blond, lieutenant. Je vous imaginais blond.
Je vous présente mes devoirs, madame. Vous connaissez ma mère et ma cousine, Estefania.
Mais nous nous connaissons depuis toujours, lieutenant.
Sa cousine et bientôt sa femme.
Mais c'est merveilleux. Félicitations, Estefania. Bonsoir, Titao. Ça fait une éternité. Comment va Alberto? Toujours heureux à Paris?
Il va très bien, merci.
J'avoue que c'est à Mariana que nous devons l'excellente idée de cet hommage. Elle mourait d'impatience de vous connaître.
Qui ne serait pas impatient de rencontrer l'homme qui a capturé Gungunana tout seul? Non, l'homme qui, tout seul, a capturé Gungunana. Gungunana, n'est-ce pas?
Oui, oui, mais...
J'ai du mal à vous imaginer seul au milieu de la brousse avec des milliers de noirs autour. Les lions, les serpents. Oh, les serpents, ça donne la chair de poule.
Je n'étais pas tout seul, madame la comtesse.
Ah bon, monsieur le lieutenant?
Non, nous étions 47, et surtout il y avait Mouzine.
Ah oui, oui, bien sûr, Mouzine. Quel dommage, tout de même, je vous verrais bien seul au milieu des sauvages dans un tableau guerrier.
N'écoutez pas. Mariana adore provoquer. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps d'ouvrir le bal. Mais Stéphania, si tu n'as pas honte de danser avec un ministre, et vieux de surcroît.
Oh, cousin.
Elle ouvrit le bal avec son père.
Madame la comtesse.
Elle portait une robe du soir blanche, un collier de perles. Et c'était fin chignon.
Elle a grandi, la petite Estefania. Vous manquez beaucoup en Afrique.
Oui, bien sûr, madame la comtesse.
Et surtout, vous ne voyez que des négresses là-bas, je
suppose. Oui, en général, madame la comtesse.
Elle se promène vraiment toute nue, comme sur les gravures?
Pas tout à fait, mais presque.
Je vois que le sujet vous gêne, lieutenant. Je n'en parlerai plus.
Vous ne me gêne pas, au contraire.
Mais vous rougissez, lieutenant. Vous êtes jeune.
Vous ne me semblez pas très âgé non plus, madame la comtesse.
Allez-y,
madame la comtesse.
Lopez, comme monsieur le président me l'a recommandé, mais il n'a rien.
Puis elle dansa avec son mari, qui était un officier. Nous bien dansant, vous vous souvenez la première fois que nous sommes rencontrés? C'était un bal.
Ça s'agit d'un trou à mon. Il se croit en France, et voyons.
Tout tournait autour d'elle.
Mais il part de bon maintenant.
Dans la mesure où il se contente d'en parler.
Ce qui m'avait plu en vous, c'était votre jeunesse. Et votre fraîcheur. Il ne disait rien.
Sauf qu'à présent, il y a
un musique étourdissait. Il n'y avait qu'un seul désir, celui de s'isoler, partir, partir.
Cette racaille ou pas, un coup de pied là où je pense. On sauve votre respect, monsieur le président.
Je te remercie bien.
Je croyais que t'allais plus venir.
Arrête, Manuel, tu es fou.
Oui, je suis fou. De ta bouche. Petite bête.
Qu'est-ce qu'elle a, ma bouche?
Mais elle dut malheureusement rester, accepter des invitations à danser. Alban eut la délicatesse de ne pas l'inviter.
Vous dansez très bien, lieutenant. Oh, j'aurais pu danser avec vous toute la nuit.
Elle était suffisamment troublée.
Lieutenant, vous ne m'écoutez pas, vous êtes ailleurs.
Hippolyte invita Agathe à danser. Elle était très belle, avec sa robe bleu pâle.
Au contraire, madame la comtesse.
Mon cousin, que pensez-vous de ce mariage? N'est-il pas réussi?
Non.
Il est très beau. Il lui dit.
J'ai le sentiment.
Il est long et ennuyeux.
Comme deux visages.
Alors vous trouvez le mien long et ennuyeux, car je me marie.
Vous applaudissez, mon Hippolyte.
Il le souffle
coupé. Ils me font la fête à moi, mais au fond, ils n'aiment ni l'un ni l'autre.
Oh!
Encore ce
vous mariez, cousine? Oui.
Mais vous vous faites des idées.
Cet hiver. C'est ce que nous avons décidé, Charles-Alexandre et moi. Vous êtes la première personne à l'apprendre.
Jamais je n'aurais cru que ce.
Vous saviez comme je suis heureuse.
Ça pourrait autant intéresser Marianne.
Et puis.
C'est à vous d'intéresser.
Pensons toujours à. Mais.
La mule, c'est tout.
C'est combien de temps vous avez Mais qu'avez-vous, mon ami? Hippolyte tremblait, et plus encore, avait les larmes aux yeux.
Que je devrais apporter volontaire? Exactement. Et si la mission ne vous plaît pas, au service de votre excellence, mon général, je n'en attendais pas moins, mon garçon.
Il s'enfuit en courant.
Tu es fou.
Oui, je suis fou.
Agathe se retrouva seule au milieu des danseurs. Elle pensait que le trouble d'Hippolyte provenait qu'il l'aimait encore. Elle aussi l'aimait encore un peu, et même plus qu'un peu. Elle était attristée et se dit contre elle.
Dansez très bien, lieutenant.
Qu'elle n'aurait pas dû lui faire de la peine, qu'elle n'aurait pas dû lui dire. Des choses
non,
comme
vous
ça.
Pas, vous êtes d'ailleurs. Ma fête ne vous a pas plu?
Si, si. Au contraire, madame la comtesse.
Et Charles-Alexandre?
Je l'ai trouvé magnifique. Seulement, ici, j'ai...
Il y aura toujours ce voile.
J'ai le sentiment que les gens ont comme...
Ne savaient que faire. Elle alla s'asseoir.
Ils applaudissent Mousinho. Ils me font la fête.
Charles-Alexandre vint vers elle. Qu'as-tu? Tu as l'air si triste. Rien, je dansais avec Hippolyte et puis il s'est enfui.
Vous faites des idées.
Il n'était pas bien. Où est-il maintenant?
En tout cas, moi, je crois que je vous aime bien.
Je ne sais pas. Je vais le chercher.
Jamais je n'aurais cru que ce héros d'opérette
pourrait. Et avant de la quitter, il l'embrassa sur le front.
C'est à vous m'intéresser.
Charles-Alexandre, elle a frappé à la chambre.
J'ai combien elle aime la nouveauté? La pauvre Stéphania, elle, par contre, n'a pas fait le même sens. Dites-moi, soldat, ne croyez-vous pas qu'il faut être quelqu'un qui donne la peine de l'inviter? Faut-il entendre, mon général, que je devrais me porter volontaire? Exactement, mon brave. Et si la mission ne vous fait pas peur?
Hippolyte, ouvre! C'est moi!
Je n'en attendais pas moins.
C'est moi! Ouvre! Mais rien. La porte restait fermée à clé. Aucun bruit. Dans la chambre. Dans la pénombre. Sur le lit. Habillée, allongée sur le dos,
Hippolyte pleurait, les yeux grands ouverts. Charles Alexandre crut qu'Hippolyte était sorti. Il allait le chercher. Il allait le chercher dans le parc.
Dansez très bien, lieutenant. Oh, j'aurais pu danser avec vous toute la nuit.
Mais rien. Hippolyte avait disparu. Il retourna dans le bal,
madame la comtesse.
Dans la salle de bal.
C'est magnifique. Seulement, ici, j'ai le sentiment que les gens ont comme deux visages.
Comment ça?
Et alla vers Agathe. J'ai pas trouvé.
Ils me font la fête à moi, mais au fond, ils
n'aiment. Il a dû chercher à s'isoler, dit Agathe.
Encore ce Mousinot, vous ne pensez qu'à ça? Mais vous vous faites des idées. Oh. En tout cas, moi, je crois que je vous aime bien.
Jamais je n'aurais cru que ce héros d'opérette pourrait autant intéresser Marianne.
C'est à vous l'intéresser.
Il l'amuse, c'est tout. Tu sais combien elle aime la nouveauté. La pauvre Stéphanie.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.